au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Elle est l'auteure d'une cinquantaine de romans, parmi lesquels L'Auberge de l'Ange Gardien, Le Général Dourakine, Les Malheurs de Sophie ou bien encore Les Deux Nigauds. La comtesse de Ségur demeure aujourd'hui, quelques 150 ans après sa mort, une valeur incontournable de la littérature jeunesse. Avec nous pour évoquer la vie de Sophie Rostopchine, Marie-Josée Strich, qui est professeure au cours de civilisation française à la Sorbonne et qui est une spécialiste de la comtesse de Ségur. Elle a d'ailleurs publié une passionnante biographie avec Yves-Michel Ergal sur la comtesse de Ségur, qui est parue chez Bartilla. Marie-Josée, bonjour.
Bonjour David.
Alors, avant de parler de celle qui signait toujours comme son nom de jeune fille, Sophie Rostopchine, on va peut-être commencer par resituer un peu le contexte, notamment parler des parents et surtout du père de Sophie Rostopchine, future comtesse de Ségur.
Très bien, oui, vous avez raison de préciser que le nom de Ségur est absolument indissociable du nom un peu barbare à l'oreille de Rostopchine. Qui est donc ce Rostopchine ? Eh bien, c'est bien sûr le père de la future Sophie de Ségur, mais Fiodor Rostopchine, eh bien, a aussi eu et connu une carrière politique très importante. Et son destin, et celui de sa famille, et donc aussi celui de Sophie, eh bien, son destin est lié directement à l'histoire avec un grand H. Il est intéressant de voir que c'est l'histoire avec un grand H, je le répète, qui a amené la jeune Sophie, avec ses frères et sœurs et sa mère, à Paris, sur la demande de leur père, Fiodor Rostopchine. Mais comment cela est possible?
Voilà, il arrive comme un héros, en fait, au relais d'une réputation qu'il précède et qui l'étonne lui-même.
Oui, Fiodor Rostopchine, je le rappelle peut-être pour nos auditeurs, mais je sais qu'ils sont fort savants et érudits, mais Fiodor Rostopchine a été le gouverneur de la ville de Moscou et son nom est indissociable du fameux incendie de la ville en septembre 1812. En effet, Fiodor Rostopchine est à l'époque donc gouverneur et il a toujours connu une carrière politique très brillante. Il a toujours été dans l'entourage immédiat des tsars.
Il arrive à obtenir la confiance de cet être étonnant, ce tsar un peu fou.
Oui, tout jeune, Fiodor Rostopchine, il n'est pas encore marié, et bien tout jeune, Fiodor Rostopchine va s'attirer la confiance de Paul, qui régnera sous le titre de Paul Ier, et qui est un individu un petit peu rejeté par sa mère, la grande Catherine. Et Fiodor Rostopchine saura s'attirer sa sympathie, la sympathie de ce Paul, un être peut-être trop sensible, un peu
excentrique. Un peu paranoïaque aussi.
Paranoïaque, oui, oui, oui. Son grand plaisir était de faire défiler des troupes entières à la Gatchina, un château que lui avait confié sa mère pour qu'il s'amuse ainsi. Et Fiodor Rostopchine va s'attirer la sympathie de ce jeune homme, encore, oui, ce jeune homme, en lui offrant une collection de soldats de plomb. Collection de soldats de plomb qu'il avait acheté à un collectionneur allemand. Il avait vraiment versé toutes ses économies pour cet achat. Et par cet achat, il a réussi à s'attirer l'amitié profonde, voire l'affection de Paul, qui, lorsqu'il montera sur le trône, sous le nom de Paul Ier, se souviendra de cette affection et de cette confiance qu'il a pour Fiodor Rostopchine et il va le faire venir à la cour. Et sous le règne de Paul Ier, eh bien, Fiodor Rostopchine est en quelque sorte le premier ministre de ce tsar. Très vite, vous le savez, je le rappelle rapidement, Paul Ier va provoquer plusieurs jalousies, il va être envié et finalement une conjuration aura lieu. La conjuration aboutira au meurtre, à l'assassinat de Paul Ier. Et Paul Ier meurt, vive le tsar, Alexandre, son fils, lui succède. Et bien sûr, la première action du nouveau tsar sera de répudier le conseiller favori de son père. Fiodor Rostopchine, donc, connaît, après des années de gloire et de triomphe auprès de la cour, va connaître quelques années d'exil dans son immense propriété de Voronovo, que l'on va retrouver des années plus tard, hein, dans une forme romanesque. Voronovo est une immense propriété qui couvre 45 000 hectares. Il faut donc imaginer une propriété...
Oui, c'est à l'échelle de la Russie, les propriétés.
C'est à l'échelle de la Russie, c'est-à-dire que c'est un canton. Et Fiodor Rostopchine, pendant ces années de disgrâce, va développer des techniques agronomiques qu'il va imposer à ses paysans qui travaillent pour lui. Il en a 8000. Et il va faire venir des paysans et des agronomes écossais. Tout ça, je précise ces petits détails, peut-être pour plus tard. On va peut-être retrouver des Écossais, n'est-ce pas, dans les futurs romans de la comtesse de Ségur. Alors, Alexandre est au pouvoir. Il a renvoyé Fiodor Rostopchin. Il est mal entouré. Et dans les années 1808-1809, la situation politique pousse Alexandre à redemander conseil à Fiodor Rostopchin. Et sans pudeur, eh bien, il va envoyer une estafette à Voronovo et annoncer à Fiodor Rostopchin qu'il est revenu en grâce et qu'il peut revenir à la cour.
C'est-à-dire qu'un grand danger menace la Russie, c'est Napoléon qui est là avec son appétit d'ogre.
C'est cela. Et Alexandre démuni va rappeler Fiodor Rostopchin, qui aura un rôle déterminant, bien sûr, à jouer 2-3 ans plus tard.
Alors, vous le citiez tout à l'heure, Marie-Josée, en disant qu'il était à l'initiative du grand incendie de Moscou, dont on considère qu'il est le coup d'arrêt de la progression des Français, des troupes napoléoniennes en Russie. Très injustement, ce n'est pas la vision que Rostopchin laisse de lui en Russie même.
Ah oui, le malheureux Fiodor Rostopchin, c'est un être violent, déterminé, voire excessif, hein. Bien sûr, et bien pour couper toute avancée napoléonienne, il a décidé, étant gouverneur de la ville, de pratiquer la politique de la terre brûlée. Et pour ce faire, et bien, voyant que la situation est dorénavant perdue, il va décider de brûler la ville, c'est-à-dire ne laisser que des cendres pour accueillir l'empereur et son armée. Comment faire ? Eh bien, il va d'abord bien penser le projet, et puis il va libérer les prisonniers des prisons avec chacun une mission, mettre le feu à tel pâté de maison. Il va également faire évacuer toutes les pompes à incendie. Et la ville de Moscou étant en bois, eh bien, l'incendie devra prendre et tout va brûler et être détruit. Alors vous allez me dire, mais sa famille ? Alors sa famille, Fiodor Rostopchin, en bon père de famille, en bon époux, l'a fait évacuer dans une autre propriété qui n'est pas Voronovo. Et donc, le début septembre, la ville de Moscou va brûler. La petite Sophie Rostopchin, elle est née en 1799, a eu 13 ans au mois de juillet 1812. Eh bien, elle le racontera plus tard, elle a vu pendant plus de 10 jours la ville de Moscou brûler. Et ses propres termes sont les suivants. J'ai vu comme une aurore boréale sur la ville. Il est quand même impressionnant pour une enfant de savoir qu'un spectacle pareil, un spectacle néronien, hein, eh bien, a été provoqué par son propre père.
Alors Marie-Joséphine, nous marquons une pause si vous voulez bien avant de retrouver cette ville incendiée par Rostopchin. Retrouvons la comtesse de Ségur avec sa biographe, Marie-Joséphine Strich, et nous retrouvons cette ville de Moscou en flammes, coup d'arrêt réussi par Rostopchin, gouverneur de Moscou, dont un témoin qui est intéressant de citer ici, puisque son nom, on va le retrouver tout au long de l'émission, un témoin qui est le propre aide-de-camp de Napoléon Ier, le futur général comte de Ségur, va sauver la vie de son empereur, Napoléon Ier, et se souviendra toute sa vie de cet incendie de Moscou, le général Paul de Ségur, qui sera lui-même académicien français par la suite. Alors, je le disais tout à l'heure, Marie-Josée, ce coup d'éclat de Rostopchin fait de lui un héros, mais pas dans sa patrie. Il est obligé de quitter, en fait, disgracié à nouveau, de quitter la Russie.
Oui, alors on connaît la suite. Napoléon, c'est la grande débâcle. Et le tsar revient à Moscou et là reçoit toutes les doléances des habitants et des commerçants qui n'ont trouvé que ruine après ce terrible incendie. Et chose terrible pour Fiodor Rostopchin, eh bien, il va être mis en disgrâce par l'empereur qui annonce aux habitants que c'est Rostopchin le grand coupable, le grand responsable. et Rostopchine est en quelque sorte condamné à l'exil. Mais un homme du tempérament de Fiodor Rostopchine ne part pas en exil. Il va donc prendre le prétexte aussi diplomatique que peut-être réel pour lui.
Une maladie diplomatique.
vraiment. Il va prendre le prétexte d'aller prendre les eaux en Allemagne pour quitter la Russie. Et donc, il va laisser sa femme et ses 8 enfants en Russie. Ainsi, il part accompagné d'un simple domestique avec 2 chevaux. Donc, tous les deux partent, quittent la Russie après des adieux larmoyants à la comtesse Rostopchine et aux enfants. Et il va arriver en Allemagne fort mal en point. Il est très déprimé, dirions-nous, de nos jours. Il est malade, il se sent trahi par tout le monde. Et en Allemagne, heureusement, eh bien, dans les différentes villes d'eau qu'il va traverser, il est accueilli comme un héros. Les femmes se coiffent à la Rostopchine. On l'invite partout. On veut le voir, le rencontrer. De ce fait, Fiodor reprend courage et se dit « Tout cela, je le sais par la correspondance qu'il a entretenue avec Sophie, qui était restée en Russie. » Et reprenant courage grâce à l'accueil des Allemands, il prend la décision d'aller voir à quoi ressemblent les Français sur leur propre territoire.
Avec un peu de scepticisme, parce qu'on ne peut pas dire qu'il soit vraiment francophile à l'origine.
Non, il est très réservé sur les Français.
Donc il arrive à Paris.
Il arrive à Paris par la porte Saint-Denis, tout cela je le sais par sa correspondance. Très vite, il est accueilli au faubourg Saint-Germain et très vite, il est présenté au roi. Et là, bien sûr, il est accueilli comme le sauveur de la monarchie. Les Bourbons ont retrouvé le trône de France grâce à Fiodor Rostopchine. Alors là, notre cher Fiodor Rostopchine se sent beaucoup mieux. Il s'installe à Paris et va découvrir la vie parisienne et ses théâtres.
Et il fait ensuite venir sa famille.
Et bien sûr, très vite, il va écrire à sa femme de le rejoindre à Paris avec les enfants. Et c'est ainsi que, eh bien, en 1816, viennent à Paris la comtesse Rostopchine et les 8 enfants, dont la jolie Sophie Rostopchine.
Et alors, cette jeune Sophie est là, comme sa maman, décidée de se convertir au catholicisme. Cette famille où on portait très haut l'orthodoxie, la mère, la comtesse Rostopchine, sous l'impulsion des jésuites, si je vous ai bien lu, s'est convertie au catholicisme. Elle a plus ou moins poussé sa fille Sophie à faire de même.
Oui, alors là, c'est vous parler d'un point délicat, hein, c'est vrai. La comtesse Catherine Rostopchine était convertie au catholicisme sous l'influence des jésuites à Saint-Pétersbourg, en particulier de l'abbé Surugue, qui était le curé de Saint-Louis des Français à Moscou. Et par un jeu de circonstances tout à fait romanesque et étonnante, la jeune Sophie Rostopchine sera convertie, elle passera à la religion catholique sous l'influence de sa mère. Mais je ne vais pas m'attarder sur les conditions très romanesques de cette conversion. Il faut laisser le mystère planer, non pas le mystère, mais la curiosité doit être piquée.
Alors, vous allez me trouver très matérialiste, Marie-Josée, mais cette conversion, jointe au fait que Sophie est assez jolie et que sa famille est immensément riche.
Oui, très riche.
Vous avez parlé de cette propriété de 40 000
extraordinaire.
Hectares. Ça fait d'elle un très beau parti. Et le Faubourg Saint-Germain se dit que cette jeune Sophie Rostopchine, elle a beaucoup de qualité.
Oui, la jolie Sophie Rostopchine est spirituelle, belle, amusante, riche. Mais bien sûr, il y a le problème de cette conversion. Faubourg Saint-Germain fait un petit peu la moue en se disant que quand même un parti aristocratique français catholique ferait peut-être un peu la moue devant cette jeune fille. Et de son côté, étant convertie au catholicisme, elle ne peut plus prétendre à un mariage orthodoxe russe aristocratique. Que faire ?
C'est là qu'intervient une famille au nom illustre, la famille de Ségur. Un nom illustre, une actualité qui la rapproche des Rostopchine, puisqu'on l'a dit, il y avait le général Paul de Ségur, qui était l'aide de camp de Napoléon Ier et qui sait mieux que quiconque qui est Rostopchine, puisqu'il était présent au moment de l'incendie de Moscou. Et cette famille, il se trouve qu'elle a elle aussi, on dirait aujourd'hui une actualité ou un secret de famille qui fait que finalement, elle regarde Sophie Rostopchine avec intérêt.
Oui, alors, vous avez tout à fait bien fait de lever la question du nom de Ségur. L'aide de camp de Napoléon, c'est un Ségur. La famille Ségur a un secret, une tâche dans le destin du nom. Eh bien, effectivement, Octave de Ségur s'est suicidé en se jetant dans la Seine du Pont Royal. Quand je passe là, je suis toujours émue de penser à ce destin terrible. Il s'est jeté dans la Seine à cause des infidélités de sa femme. Alors le Faubourg Saint-Germain a frémi, un suicide. De ce fait, eh bien, la famille Ségur est aussi un peu bridée dans ses ambitions matrimoniales. Alors, il faut penser à Madame Swetchine, autre russe. célèbre du faubourg Saint-Germain, qui elle aussi est convertie au catholicisme, et qui connaît tous ses problèmes de conversion, et qui se dit que, ma foi, ce serait une manière fort belle d'intégrer cette jolie Sophie Rostopchine convertie, et d'intégrer cette Sophie donc, à une famille ancienne, française. Et de plus, qui plus est, je crois que le clin d'œil que la fille de l'incendiaire de Moscou épouse le neveu de l'aide-de-camp de Napoléon n'est pas pour déplaire à Fiodor Rostopchine. C'est un clin d'œil historique absolument inouï. Alors le mariage a lieu le 14 juillet 1819. Bien sûr, le 14 juillet n'était pas fêté, hein, nous sommes sous la monarchie. Et ce mariage a lieu au faubourg Saint-Germain, rue Saint-Dominique, dans la chapelle privée du cardinal de la Luzerne. Et voilà donc la nouvelle comtesse de Ségur, Sophie de Ségur, née Rostopchine.
Alors, nous marquons une pause, si vous voulez bien, Marie-Joséphine, et nous retrouvons ensuite la comtesse de Ségur. Nous retrouvons Marie-Joséphine Strich qui nous parle aujourd'hui de la comtesse de Ségur. Alors, vous nous avez expliqué qu'elle avait fait un très bon mariage en épousant effectivement un Ségur, rejeton d'une famille illustre qui a donné d'ailleurs 3 académiciens à l'Institut. C'est un mariage classique, c'est un mariage dans le faubourg Saint-Germain, de nombreux enfants.
Oui, très vite, de nombreux enfants. C'est un mariage d'amour. Hein. Eugène est très beau, c'est peut-être le seul défaut que Fiodor lui trouve. Il dit il est très bien, il a peut-être le défaut d'être trop beau, bon... On guérit hélas de ce genre de défaut. Et Sophie est très heureuse, c'est un mariage d'amour. Très vite, le premier enfant voit le jour, exactement, vraiment, dans les minimums réglementaires. Au mois d'avril 1820, arrive le fils aîné, Louis-Gaston de Ségur, héritier de la pairie, futur Monseigneur Louis-Gaston de Ségur. Puis, très vite, une série d'enfants. Le petit Renaud, qui va mourir à 3 mois, puis Anatole, Edgar, et ensuite, série de filles. Nathalie, future madame de Malaret et dame d'honneur de l'impératrice Eugénie, qui figure sur le tableau de Winterhalter conservé à Compiègne. Puis ensuite, il y aura Sabine et Henriette, les deux jumelles. Sabine deviendra religieuse. Henriette épousera le sénateur Fresneau, sénateur du Morbihan. Et enfin, en 1835, Olga, qui épousera Émile de Simard de Pitray et qui essaiera, elle aussi, d'écrire pour les enfants. Mais nous n'en sommes pas là. Les enfants sont là, naissance en 1835. Sophie est ravie d'être donc mère de famille avec ses charmants enfants. Sa vie se partage entre Paris, entre le faubourg Saint-Germain et une très jolie propriété normande. Les Nouettes, c'est cela.
Un cadeau du père.
Un cadeau de Fiodor Rostopchine pour les étrennes de l'année 1820. On voit qu'il était très royal, hein, toujours dans ses cadeaux.
Et on sent que la comtesse Ségur, qui n'est pas très mondaine finalement, est heureuse, surtout lorsqu'elle est en Normandie, dans sa propriété des Nouettes.
Voilà, c'est le lieu de bonheur de la jeune comtesse de Ségur. Elle aime, dès les premiers beaux jours, filer jusqu'aux Nouettes, qui se trouvent à Aube, près de l'Aigle, sur la route de Granville. Et il faut imaginer qu'à l'époque, elle mettait plus de 9 heures pour gagner son château des Nouettes. Elle y est très heureuse. Eugène de Ségur, lui, préfère Paris. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Tous les deux vivent de manière intelligente et peut-être un petit peu indépendante, mais c'est un couple qui est là, toujours présent. Et je sais que parfois, on attaque le comte Eugène de Ségur. On lui dit « oui, il n'a pas été très fidèle ». Premièrement, je dirais que ça ne nous regarde pas. Et moi, je salue plutôt en lui son esprit ouvert, puisque quand il le faudra, il saura donner une certaine indépendance à sa femme, Sophie, comtesse de Ségur.
Il va même être un élément déterminant dans la carrière littéraire de sa femme, puisque, étant lui-même actionnaire de la compagnie des chemins de fer, d'une des compagnies de chemins de fer de l'époque,
de l'Est,
merci de le rappeler, il connaît bien Louis Hachette, qui lui est en train de créer son empire de bibliothèque des gares. Et c'est lui, dit-on, vous me corrigerez si je me trompe.
Vous êtes tout à fait dans la rectitude.
C'est lui qui va soumettre le premier manuscrit de son épouse à Hachette.
Oui, parce que Louis Hachette a eu cette idée géniale de créer cette bibliothèque des chemins de fer. Les gens dans les trains qui commencent à se développer s'ennuient, ont peur, je ne sais pas, ont mal au cœur. Eh bien, Louis Hachette va s'occuper de les faire lire. Et il crée pour cela la bibliothèque des chemins de fer, avec une couleur dévolue à chaque public. Et ainsi, le rose sera réservé aux enfants, d'où la bibliothèque rose. Et si de nos jours, vous avez encore dans les gares des relais Hachette, anglicisés actuellement en relais, eh bien, c'est un privilège qui date de cette époque. Il n'y a pas d'autres éditeurs qui soient autorisés à vendre des ouvrages, des livres dans les gares.
Alors, elle a un autre grand défenseur, c'est Louis Veuillot, le champion de l'ultra-catholicisme, le journaliste et pamphlétaire, qui lui aussi est convaincu dès le début des talents littéraires de la comtesse de Ségur. C'est un proche des Nouettes.
Et c'est l'ami fidèle.
Elle l'appelle l'ami fidèle. Voilà. Et il est celui qui va la pousser à continuer, en fait, à écrire. Quels sont les premiers romans qu'elle publie qui tous sont des succès d'emblée ?
D'emblée. Un grand succès. Le premier, eh bien, ça va être un des composants de la trilogie Fleurville, Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles Modèles et Les Vacances. Il est intéressant de noter que le premier ouvrage qu'elle a publié, à compte d'auteur, mais après il sera repris par Hachette, c'est un ouvrage de pédiatrie, La Santé des Enfants. Elle-même avait perdu un petit garçon. Elle a perdu aussi de nombreux petits-enfants. Et elle pense que les médecins sont parfois des ânes, pas aussi intelligents que Cadichon. Donc elle décide d'elle-même d'écrire un ouvrage de pédiatrie. Et on voit qu'elle est à la pointe de son époque, vraiment dans le mouvement qui va en avant vers le progrès, puisque le terme de pédiatrie apparaît en 1855. C'était donc une spécialité médicale tout à fait nouvelle. Et qui est une des premières auteurs dans cette voie ? Eh bien, la comtesse de Ségur.
Qu'est-ce qui fait, selon vous, le succès immédiat de cette littérature ? On ne parle pas encore de littérature jeunesse, mais elle occupe un créneau. Autrefois, c'était Madame d'Aulnoy ou les contes de Perrault qu'on donnait à lire aux enfants. À partir du moment où surgit la comtesse de Ségur, il y a quelque chose qui se produit, un tournant. Ses ouvrages sont attendus, guettés, fêtés. Et qu'est-ce qu'elle apporte, elle qui a souvent été si critiquée et dont les livres ont prêté souvent, après 68, à des commentaires négatifs ?
Désobligeant, oui, c'est vrai. Eh bien écoutez, je pense que c'est un véritable écrivain. Et si elle a pris le prétexte d'écrire pour les enfants, c'est que par sa naissance, par son milieu, par son époque, elle ne pouvait pas décemment écrire pour les adultes. Et écrivant pour les enfants, c'était une démarche mineure, donc autorisée. Et elle, eh bien, elle a écrit avec son cœur, avec son génie. Et je peux vous dire que c'est très difficile d'écrire pour les enfants, parce que leur patience est limitée. Si le livre ne plaît pas immédiatement, il ne plaira jamais. Je crois aussi que c'est un écrivain qui écrit et qui décrit ce qu'elle connaît, sa vie, son milieu. Alors bien sûr, après, on peut le lui reprocher, mais elle va parler de ce qu'elle connaît bien.
Oui, les éléments autobiographiques sont très importants. Vous parliez de vos renouveaux tout à l'heure.
Oui.
L'enfance, la famille, les souvenirs vécus.
Oui, même le titre même des Malheurs de Sophie, c'est presque une autobiographie. J'ai eu le privilège d'avoir entre les mains le manuscrit des Malheurs de Sophie. Alors, j'étais très émue, bien sûr. J'ai tourné les pages dévotement et j'ai vu, avec vraiment beaucoup d'intérêt et d'émotion, que dans le premier jet, eh bien, le prénom n'était pas Sophie, mais Marie. Alors, les aventures de la petite Marie et la poupée de Marie dans le premier chapitre. Deuxième chapitre qui commence encore avec Marie. Et au milieu du deuxième chapitre, la plume n'y tient plus. Elle barre Marie et elle met Sophie. On sent qu'elle avait essayé un peu de déguiser cette autobiographie sous le nom plus général de Marie, mais elle n'y tenant plus, elle a remis le sien. De la même manière, le général d'Ourakine a pour modèle son propre père. Peut-être c'est un livre impertinent, puisque je le rappelle que d'Ourakine en russe veut dire idiot. Alors si elle a pris son propre père pour ce modèle, vous voyez que Sophie sait parfois être impertinente.
Combien est-ce qu'elle a écrit comme ça de romans qui souvent correspondent à la naissance d'un petit garçon ou d'une petite fille ?
Oui,
ils sont
la
souvent
dédicace
dédiés d'ailleurs à ses petits-enfants.
Oui, oui. Et vous faisiez mention tout à l'heure d'un Ségur académicien, le petit Pierre de Ségur, qui a été élu en 1907, eh bien, c'est le dédicataire de Pauvre Blaise, alors qu'il est encore tout petit, il ne sait pas lire. Et même à sa naissance, elle lui a dédié le livre de messe pour les petits-enfants. Vous voyez, c'est amusant de voir qu'à chaque naissance, elle a le besoin d'écrire un ouvrage qu'elle va dédier à cet enfant.
Alors, le dédicataire aurait été à la hauteur du cadeau qu'on lui fait, puisqu'il restera comme un historien aux monographies ayant connu un grand succès à l'époque. Et c'est Robert de Flers qui lui a succédé à sa mort en 1916.
Oui, et dans le discours de réception de Robert de Flers, eh bien, on a une mention de cette comtesse de Ségur qu'il imagine en train de raconter l'histoire de ses aïeux à Pierre de Ségur.
Robert de Flers étant lui-même normand.
Oui, c'est amusant. Oui, on ne quitte pas l'Orne, précisément l'Orne.
Alors, est-ce que dans ces romans, dont on a parfois dit qu'ils avaient écrit à quatre mains, il n'y a pas quelqu'un qui intervient? Je pense au fils aîné de la comtesse de Ségur, Louis Gaston, religieux, prélat, dont visiblement l'influence est réelle au moment de la relecture, voire des corrections des manuscrits.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, oui, vous avez raison de parler de la présence de Louis Gaston de Ségur, monseigneur.
Personnage
Gaston
intéressant d'ailleurs.
Personnage qui a beaucoup marqué le 19e siècle, un des premiers à développer le catholicisme social avec des patronages. Et ce prélat aveugle a vraiment été très important dans la vie du 19e siècle. Il était très proche de sa mère.
Et très proche de Pie IX.
Très proche de Pie IX. Et sa mère a vécu vraiment dans son ombre.
Oui, il y a une relation étonnante là.
Une fusion terrible. Hein. Oui, 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 oui. C'est le fils aîné. Il a entrepris des études de droit. Puis, n'y tenant plus, il a quand même obtenu de ses parents l'autorisation de suivre une formation de peintre, d'artiste peintre.
Il est l'élève de Delaroche.
De Paul Delaroche. Et il a, après cela, quand même embrassé la carrière diplomatique. Il s'est trouvé à Rome, mais très vite, ses fonctions diplomatiques l'ont lassé. A-t-il eu des révélations à Rome? Je ne sais pas, mais une vocation religieuse a commencé à poindre dans son esprit, dans son âme, et il a décidé d'entrer dans les ordres. Au grand dam, d'ailleurs, de
Monsieur Oui, puisqu'il était l'héritier
de
la Pairie.
C'était l'héritier de la Pairie. Et même Sophie était désespérée de voir son fils entrer dans les ordres. Néanmoins, donc, il est ordonné en 1847. Il est prêtre à Paris et, drame, à l'âge de 33 ans, il devient aveugle. La cécité étant un obstacle canonique, il ne pouvait plus avoir, non pas une carrière, mais enfin un véritable cursus dans sa vie d'ecclésiastique. Il a été nommé chanoine de première classe au chapitre de Saint-Denis. Il a vécu à Paris, rue du Bac, non loin d'ici, et sa mère était très proche de lui. Et c'est ainsi qu'il se retrouvait souvent à Paris ou aux Nouettes, et Madame de Ségur lui lisait les manuscrits. Et là, Monseigneur de Ségur intervenait en jugeant peut-être un caractère trop faible, trop violent. En particulier, l'âne Cadichon avait subi, non pas les foudres, mais les réserves de Monseigneur Gaston de Ségur. En effet, il pensait que sa mère avait donné un caractère trop revanchard à cette âne, si intelligent, qui s'appelle Cadichon. Et à sa demande, Madame de Ségur a ajouté un chapitre intitulé « Le repentir de Cadichon ». Pour aller dans le sens que vous aviez indiqué au début de votre démonstration, oui, eh bien, on peut dire que elle a été un peu corsetée, si je puis dire, par les propos de son fils.
Et vous qui avez eu la chance d'avoir accès aux archives de la famille Ségur, peut-être d'avoir accès aux manuscrits si on les a conservés, on aperçoit une navette, un jeu de retour, d'écriture, de correction, de ratures.
Oui, il y a quelques ratures, elles sont légères, hein. Elles sont très très légères, mais on sent que c'était retravaillé, plus que les premiers romans. Les romans de la fin de la production littéraire, hein. Ça commence avec Cadichon quand même, Pauvre Blaise, dédié à Pierre de Ségur. Le pauvre Blaise est un saint miniature, hein, c'est étonnant. Je ne sais pas si vous ne le lisez pas tous les jours, mais Madame de Ségur met en scène un enfant qui est véritablement oblatif et totalement...
Mais elle est l'auteur d'une littérature pieuse aussi, qui est bien moins connue, mais qui lui tenait à cœur, des évangiles notamment.
Les évangiles, exactement.
Je ne suis pas certain qu'Hachette ait été convaincu de l'opportunité de les publier, mais enfin on a accepté parce
on les a publiés.
Vous citez dans votre biographie, au début, pardonnez-moi d'être franc, elle se fait un peu avoir. Je crois qu'on lui donne 1000 francs pour la publication du premier
ouvrage. Elle s'est fait avoir. Hein,
mais ensuite, elle réclame ses droits d'auteur et elle arrive à obtenir 4000 francs pour un autre ouvrage, etc. Il faudrait convertir pour voir si en euros cette somme est importante ou pas. Mais elle sait défendre ses intérêts, elle apprend le métier.
Elle apprend le métier, oui, oui. Et comme elle avait toujours besoin d'argent pour gâter ses enfants,
ses petits-enfants,
oui,
ouais.
pour réparer le billard des Nouettes, pour acheter un nouvel âne ou une nouvelle charrette pour l'âne, eh bien, elle s'inquiète de ces sous qui n'arrivent pas. Alors, y a toute une correspondance avec Hachette où elle réclame, c'est vrai. Mais néanmoins, je pense qu'elle n'a pas été très gâtée par ses droits d'auteur, qui d'ailleurs n'obéissaient pas exactement aux mêmes règles qu'aujourd'hui.
On sait si d'autres éditeurs ont cherché à obtenir ces publications
ou
si...
Non. Non, aucune trace d'aucune sorte. Il faut savoir qu'elle a quand même vendu à ce jour 29 millions de livres.
Qui sont traduits sans doute en de très nombreux.
Ils sont traduits, oui, en portugais, curieusement. Toute l'œuvre de la comtesse de Ségur est traduite en portugais, en anglais aussi. Et j'ai contribué à la traduction de deux ouvrages en italien. Les Mémoires d'un âne et Les Malheurs de Sophie.
Vous en connaissez le titre en italien ?
Oui. Alors, les Desavventura di Sofia. Les Désaventures, les Mésaventures de Sophie.
Effectivement. Et on parlait donc de ce lien entre Gaston de Ségur et sa mère. Il est très présent jusqu'à la fin.
Oui. Il va être bien sûr très présent dans les derniers jours, dans les derniers moments de la vie de sa mère. Sophie de Ségur Nérostopchine meurt à Paris, rue Casimir Perier, à l'ombre de la basilique Sainte-Clotilde. Et elle va mourir entourée de tous ses enfants et gendres et Bru, et même petits-enfants. Une première messe aura lieu à la basilique Sainte-Clotilde, et de la basilique Sainte-Clotilde, le corps sera emporté vers la Bretagne, où elle a souhaité être enterrée et entourée aussi. Et elle repose dans le petit cimetière de Plunerette, tout près de Sainte-Anne-d'Auray.
Mais est-ce que son cœur n'est pas resté à Paris, lui ?
Vous savez tout. David Gaillardon, oui, son cœur est resté à Paris et il repose au 210 rue de Vaugirard, dans l'avant-cœur CH de la chapelle de la Visitation. Où il n'est pas seul, puisque Louis-Gaston de Ségur a ordonné que son cœur lui aussi soit retiré et qu'il repose aussi dans le même coffre en ébène, rue de Vaugirard, au couvent de la Visitation, où était morte Sabine de Ségur, entrée en religion. Alors pourquoi la Bretagne ? Eh bien parce que sa fille Henriette, ayant épousé le sénateur Fresneau, avait une belle propriété, le château de Kermadio, tout près de Sainte-Anne-d'Auray. Elle aimait la Bretagne.
Oui, parce qu'il a fallu vendre les Nouettes, c'est un moment dramatique dans
1872, elle va vendre les Nouettes.
C'est à ce moment-là qu'elle découvre la Bretagne chez sa fille.
Voilà,
mais c'est un moment, on sent que pour elle, c'était extrêmement douloureux. Elle est veuve, son train de vie n'est plus le même malgré les droits d'auteur.
Oui.
Et elle,
oh, oui,
elle
oui,
doit
oui.
se séparer de cette maison qui est la maison du bonheur pour elle.
La maison du bonheur. Gaston, Louis Gaston, son fils aîné, ne supporte pas cette vente. Il pleure, paraît-il.
Et aucune des demeures successives de la comtesse de Ségur n'est aujourd'hui, pour reprendre une expression à la mode, une de ces maisons d'écrivains qu'on visite.
Alors non, le château des Nouettes a été acheté dans les années 1930 par le département et maintenant il abrite une maison pour enfants difficiles. Donc, il n'y a rien dans ce à voir
là. C'est un clin d'œil de l'histoire.
Deuxième clin d'œil, oui. Mais quand même, l'acteur curieux pourra aller dans le parc, imaginer les grands chênes qui sont là et que sans doute Louis Veuillot a pu admirer. Et puis s'imaginer que c'est là où, qu'elle arrivait, très heureuse après ses 9 heures de route. C'était quand même émouvant. Il faut quand même citer le fait qu'il existe une association des amis de la comtesse de Ségur et que l'ancien presbytère est transformé en musée. C'est très modeste, mais c'est très, très touchant de voir l'attention avec laquelle toutes les personnes bénévoles célèbrent le souvenir de Sophie.
Alors, il faut nous quitter, malheureusement, Marie-Joséphine. On vous écouterait des heures parler si bien de la comtesse de Ségur.
Merci.
Quelle est l'actualité, selon vous, aujourd'hui, de cette œuvre prolixe ? Une cinquantaine, une soixantaine de romans, je crois.
Oui, un petit peu moins. Mais je crois vraiment que si elle avait vécu à notre époque, et peut-être dans un autre milieu, elle aurait écrit tout simplement pour les adultes. Ça, je tiens beaucoup à cette idée. Et quelle est son actualité ? Bien écoutez, il me semble que si elle vivait actuellement, elle aurait certainement tous les téléphones les plus modernes. Elle aurait certainement Internet de la manière la plus sophistiquée qui soit. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je peux dire cela ? Eh bien, dans sa correspondance, elle évoque son désir d'acheter, ce qui était en vente en Grande-Bretagne, une paire de bottes en latex, qui était tout à fait... moderne pour l'époque. Et alors, il va arriver des mésaventures avec ses bottes, parce qu'elle les chausse pour se promener dans la campagne normande, elle est ravie, elle n'a plus les pieds mouillés. Mais un beau soir, elle décide de les mettre près de la cheminée, et le lendemain matin, elle retrouve que deux petits tas tout à fait minables et tristes. Elle a perdu ses bottes en latex. De la même manière, elle était très intéressée par les nouvelles théières et cafetières, non pas électriques, mais avec des techniques de je ne sais quoi. Elle était portée à la modernité. Et elle s'intéressait à ses contemporains. Si j'ai encore un instant, je dirais qu'elle a consacré un roman qui s'appelle Dilois le cheminot aux cheminots, qui était quand même une engeance nouvelle qui apparaissait, qui faisait peur. Ces gens qui cheminaient,
ces
vraiment.
Ces ouvriers qui suivent le chemin de fer.
Oui, pour installer les voies. Et on ne savait pas d'où ils venaient, on ne sait pas non plus où ils vont. Souvent, ils sont pris d'alcool.
L'influence de Gaston de Ségur, là, à mon avis.
Peut-être, oui, ouais. Peut-être.
La question sociale.
Elle s'intéresse à une modernité. Ouais. De la même manière, dans La Fortune de Gaspard, elle met en scène deux enfants, fils de petits paysans, et dont l'un va connaître une belle carrière parce qu'il va à l'école. Donc il y a cette idée de promotion sociale possible. Elle ne s'intéresse pas uniquement à une aristocratie terrienne. Je crois qu'elle a un éventail d'inspiration très, très, très large. Pensez aussi à Jean qui rit et Jean qui grogne, ces deux petits apprentis qui viennent à pied de Sainte-Anne-d'Auray à Paris pour rentrer en apprentissage à Paris. Et dans ce roman intervient aussi l'idée d'un patronage qui est dirigé par un bon prélat, bien sûr, c'est directement.
Marie-Josée, je vous remercie infiniment. Je rappelle que vous avez publié une biographie de la comtesse de Ségur qu'on lit avec bonheur. Vraiment, j'encourage
Merci.
Vraiment nos auditeurs à découvrir cette comtesse de Ségur que vous avez publiée chez Bartilla. Et vous avez également publié « Sur les pas de la comtesse de Ségur » avec Paul Loirette chez Gallimard, ainsi qu'une cuisine modèle de la comtesse de Ségur, j'imagine des tas de bonnes recettes,
c'est vrai,
chez Bartilla également.
On mange beaucoup, des fraises à la crème, des tas de choses, hein, très très bonnes.
À découvrir de toute urgence. Merci infiniment Marie-Josée.
Merci David.